Bonjour Florian, bonjour à tous. Emmanuel Macron commence une semaine d'itinérance mémorielle sur les hauts lieux de la Première Guerre mondiale dans le nord-est de la France. Chaque étape de cette semaine de commémoration sera également l'occasion d'aborder les préoccupations actuelles des territoires visités comme la désindustrialisation. La hausse des prix des carburants s'invite à l'agenda présidentiel. Emmanuel Macron assume sa ligne politique, vous l'entendrez.
Et puis l'autre tête de l'exécutif, Édouard Philippe, est en Nouvelle-Calédonie au lendemain du référendum qui a vu le non à l'indépendance l'emporter.
L'archipel du Pacifique reste français, mais le rapport de force a changé. Reportage à suivre de notre envoyé spécial à Nouméa. Les nouvelles sanctions américaines contre l'Iran entrent en vigueur aujourd'hui. Concrétisation du retrait de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. De quoi embarrasser les entreprises européennes, mais des solutions existent pourtant. Explication dans quelques instants.
Et puis notre question du jour ce matin. A-t-on découvert une solution pour faire remarcher les paraplégiques ? On en parlera tout à l'heure avec Stéphane Palfi.
Il se rend dans les territoires meurtris autrefois par la guerre, aujourd'hui par la crise économique et industrielle. Emmanuel Macron sillonne toute cette semaine le Grand Est et les Hauts-de-France pour commémorer l'armistice de la Première Guerre mondiale. Le chef de l'État est attendu à 10h ce matin à Morhange, en Moselle, pour saluer la mémoire des combattants tombés dans ce que l'on a appelé la bataille des frontières. Stephen Goyer.
Un hommage auprès de 5000 Français tués lors de l'une des premières grandes batailles de la Première Guerre mondiale, offensive lancée en direction de l'Empire allemand par les troupes françaises en août 1914. Et Morhange est loin d'être le seul moment cérémonial au programme du chef de l'État, qui prendra demain la direction de Verdun avant de se rendre mercredi dans les Ardennes, avec notamment un conseil des ministres délocalisé pour l'occasion à Charleville-Mézières. Des flammes du souvenir, des cérémonies militaires, une visite de nécropole. Du côté de l'Élysée, on entend marquer cette semaine sous le sceau du souvenir. Pour preuve, le nom d'itinérance commémorative donné à ces déplacements d'Emmanuel Macron. Des cérémonies en compagnie d'ailleurs de plusieurs chefs d'État. Demain à Reims, il sera notamment aux côtés du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, pour évoquer l'armée noire, ses 200 000 soldats venus des colonies françaises. Vendredi, le président de la République rencontrera Theresa May dans la Somme et la chancelière allemande Angela Merkel le lendemain, avant la cérémonie parisienne sous l'Arc de Triomphe dimanche, en présence notamment de Donald Trump et Vladimir Poutine.
Et comme cela sera le cas durant toute cette semaine d'itinérance mémorielle, Emmanuel Macron consacrera ce lundi après-midi aux problèmes actuels d'une région qui n'a pas vécu que les guerres, mais aussi la désindustrialisation et les coups de boutoir de la mondialisation, comme il l'a expliqué à Ouest-France. Le chef de l'État, accompagné de 6 ministres, rencontrera des investisseurs participant au salon Choose France Grand Est à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle. Eux veulent aussi se faire entendre de l'exécutif. Les membres de la Fédération régionale des travaux publics de Champagne-Ardenne se mobilisent aujourd'hui contre la fiscalité écologique et la hausse des prix du carburant, du diesel surtout. Opération escargot et manifestations prévues devant les préfectures des 4 départements de Champagne-Ardenne. La suppression l'an prochain d'une réduction de taxes sur le gazole non routier coûterait 700 millions d'euros aux entreprises de BTP, selon leur fédération nationale, soit la marge annuelle de la filière. La contestation plus générale contre l'augmentation des prix des carburants s'est récemment cristallisée autour d'un appel au blocage des routes le 17 novembre prochain, mobilisation à laquelle 700 000 personnes ont déjà souscrit via une pétition en ligne. Je suis particulièrement sensible à la colère de ceux qui doivent se déplacer pour travailler, déclare Emmanuel Macron dans un entretien aux journaux du groupe Ebra qui couvre l'Est de la France. Le chef de l'État justifie sa ligne politique. Il estime que les mêmes qui râlent sur la hausse du carburant réclament aussi qu'on lutte contre la pollution de l'air parce que leurs enfants souffrent de maladies, Cyril Graziani.
Emmanuel Macron assume, il assume parfaitement, dit-il, la hausse de la taxation sur le diesel. Je préfère la taxation du carburant à la taxation du travail, lance-t-il. Et il enfonce le clou. Les mêmes qui râlent sur la hausse du carburant réclament aussi qu'on lutte contre la pollution de l'air parce que leurs enfants souffrent de maladies. Mais le chef de l'État prend aussi soin de montrer qu'il entend la grogne. On nous a expliqué pendant des décennies qu'il fallait acheter du diesel et maintenant c'est le contraire, dit-il. C'est normal que ce soit mal compris. Emmanuel Macron va traverser tout au long de cette semaine des territoires parfois abandonnés. Marine Le Pen y a effectué des scores tonitruants, mais le président assume sa part de responsabilité. Quand les Français sont inquiets, c'est que je n'explique pas assez bien. et il l'avoue, « Je comprends l'impatience des Français et j'écoute leur colère », jure-t-il. Tout au long de cette semaine, cette colère, il risque vraiment de l'entendre.
Cyril Graziani à Strasbourg pour France Culture. Emmanuel Macron rappelle par ailleurs que pour inciter les Français à aller vers des véhicules moins polluants, l'exécutif crée des primes à la conversion de 1 000 à 2 000 euros, y compris sur l'achat d'occasion. S'achemine-t-on donc vers la fin du pétrole ? C'est un dossier à retrouver en une sur franceculture.fr.
7h05 sur France Culture, la suite du journal avec vous Catherine Dutu et Édouard Philippe qui est arrivé ce matin en Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre a salué la participation absolument considérable au référendum d'indépendance hier.
Un peu plus de 8 électeurs sur 10 se sont déplacés aux urnes pour choisir le maintien de cet archipel du Pacifique dans la France. Le non à l'indépendance l'a emporté avec 56,4% des voix, victoire plus courte que prévue. Les indépendantistes, même perdants, se sentent ce matin revigorés. Alors le rapport de force peut-il changer alors qu'Édouard Philippe va échanger toute la journée avec les partis politiques néo-calédoniens? Reportage à Nouméa de notre envoyé spécial Mathilde Dehimi.
Le résultat du référendum se lit sur les visages des uns et des autres. Certes, les anti-indépendantistes ont remporté ce référendum, mais on est loin d'une large victoire qu'ils appelaient de leur vœu. 70-80% annoncés par les sondages et non les 56% sortis des urnes. Ce n'est pas pour autant un échec, balaie le sénateur Le Rassemblement Les Républicains Pierre Frogier.
C'est vrai que j'aurais préféré un résultat plus significatif. Il n'empêche que, soyons simples, les Calédoniens ont choisi la Nouvelle-Calédonie est française et restera française. Ce résultat, il révèle d'autres réalités. Vous avez les Kanaks d'un côté et puis les autres.
Garant d'une droite dure, Pierre Frogier maintient sa volonté de clore dès maintenant le processus d'indépendance, de supprimer la possibilité d'organiser un deuxième, voire un troisième référendum. La forte mobilisation et le résultat resserré devraient contraindre tous au dialogue. Philippe Gomez, député Calédonie Ensemble, première force et droite modérée.
Il n'y a aucune amertume. Le résultat est, je dirais, du ressort d'une défaite honorable. Cela étant, il y a 18 000 voix d'écart quand même. Donc un référendum en 2020, ce n'est pas non plus la multiplication des pains. Notre préférence, c'est d'échanger avec eux.
Le sourire se lit sur les visages des indépendantistes. Ils ont fait le plein de voix en territoire kanak, sauf dans les îles. Ils ont aussi mobilisé un peu plus que prévu parmi les non-kanaks. Roch Ouamitan, signataire pour le FLNKS des accords de Nouméa.
Comme certains l'ont dit, nous ne sommes pas au crépuscule de notre revendication. Au contraire, les jeunes nous ont fait confiance. Notre projet politique devient de plus en plus crédible. Le travail continue parce que s'ouvre la période du deuxième référendum qui se profile à l'horizon.
Un sourire qui cache aussi un soulagement pour les indépendantistes. Mobiliser leur base et surtout les jeunes était loin d'être gagné il y a encore quelques semaines. D'ici la fin de l'année, un nouveau comité des signataires rassemblant Matignon et les partis calédoniens devrait être organisé. Des discussions sur le deuxième, le troisième référendum se tiendront avec en ligne de mire de nouvelles élections provinciales en mai sur le Caillou.
Reportage de Mathilde Dehimi, envoyée spéciale de France Culture à Nouméa. Un mois après sa démission fracassante du gouvernement, Gérard Collomb doit retrouver aujourd'hui son fauteuil de maire de Lyon. Un retour destiné à préparer les élections municipales de 2020. Sur le papier, le scrutin ne devrait être qu'une formalité. L'ex-ministre de l'Intérieur dispose toujours d'une confortable et docile majorité à l'hôtel de ville. Ils font partie de l'une des caravanes de marcheurs qui a quitté l'Amérique centrale avec l'intention de rallier les États-Unis. Plus d'un millier de migrants sont arrivés hier à Mexico. Ils ont été placés dans un stade municipal 4 semaines après avoir quitté la violence et la récession dans leur pays d'origine. Ces migrants, principalement venus du Honduras, se trouvent désormais à un peu plus de 800 km du point légal d'accession le plus proche, situé au Texas. La lutte contre l'immigration, cheval de bataille de Donald Trump en ce dernier jour de campagne aux États-Unis avant les élections de mi-mandat de demain. L'immigration et Donald Trump qui électrise le camp républicain, vous l'entendrez dans le journal de 7h30 à l'occasion d'un meeting de Donald Trump en Géorgie. Les États-Unis qui ont rétabli cette nuit les sanctions contre les secteurs pétroliers et financiers iraniens qui avaient été levés sous la présidence Obama, concrétisation du retrait au printemps dernier de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien, de quoi embarrasser les entreprises européennes qui avaient des relations commerciales ou financière avec Téhéran, car ces sanctions américaines ont une portée extraterritoriale. Elles peuvent s'appliquer en dehors des États-Unis avec la puissance du dollar. Mais des solutions existent à l'échelle européenne, selon Philippe Bonnecarrère, sénateur du Tarn. Il a rédigé un rapport d'information sur l'extraterritorialité des sanctions américaines et des réponses pour l'Union européenne.
C'est une réponse politique, ce n'est pas une réponse technique pour nos entreprises. Il existe par contre deux possibilités. La première, c'est d'activer ce que j'appellerais un canal humanitaire, c'est-à-dire l'idée de garder une banque iranienne connectée au système bancaire international. Ce canal humanitaire permettant de commercialiser des produits alimentaires ou des médicaments. Je pense fondamentalement que ce sera l'intérêt même des États-Unis. C'est pour ça que nous insistons sur cette solution. La situation serait bien sûr catastrophique pour les États-Unis, pour leur image de marque et pour les objectifs qu'ils prétendent suivre si demain il y avait des situations de pénurie alimentaire ou des problèmes de santé, d'hygiène, de santé publique en Iran. Donc nous croyons à ce canal humanitaire et nous croyons enfin à une plateforme comptable autonome. Ce qui est important pour l'Europe, c'est de trouver un outil lui permettant de continuer à travailler avec des pays pour lesquels nous ne souhaitons pas adopter les mêmes sanctions vis-à-vis des Américains. L'Europe est souveraine. Nous ne pouvons pas accepter que les États-Unis nous demandent de suivre, d'appliquer, de mettre en œuvre leur politique étrangère. Nous sommes des États souverains.
Le sénateur Philippe Bonnecarrère au micro de Marie Viennot. À 4 mois du Brexit, les 3 600 000 expatriés qui vivent au Royaume-Uni essaient désespérément de se faire entendre. Ils prévoient de manifester ce matin devant le Parlement pour former une chaîne humaine sur une centaine de mètres jusqu'à la résidence de la Première ministre au 10 Downing Street. Ces expatriés redoutent une sortie de lieu sans accord commercial et ils craignent de perdre leur statut. Antoine Gignot a rencontré l'un des organisateurs de cette manifestation.
Ces dernières semaines, Nicolas Hatton est allé interpeller des élus, des ministres, des conservateurs, des travaillistes, sans résultat. Avec cette chaîne humaine devant le Parlement, le fondateur du collectif des 3 millions espère enfin attirer l'attention du gouvernement.
On n'a toujours pas de précision sur le statut qu'on aura. Il y a un refus de répondre à nos questions. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les 2 prochains mois. L'accord pourrait être rejeté. Et nous, les citoyens européens au Royaume-Uni, on serait les premières victimes.
Car même si le Royaume-Uni a prévu un dispositif de régularisation des expatriés, tout est suspendu au résultat des négociations entre Londres et Bruxelles avec une incertitude totale face à l'avenir.
C'est impensable. J'ai une fille de 14 ans, c'est une ado. C'est le genre de situation qui pourrait provoquer des crises personnelles, familiales. Impossible. Je connais des Français qui sont rentrés cette semaine encore. Un ami qui a décidé de continuer sa vie en France. Pour l'instant, les gens attendent, ils sont anxieux, ils sont inquiets. Mais ils attendent quand même de savoir quel sera le statut qu'on aura.
Et pour protéger leurs droits, les expatriés demandent au gouvernement de signer un traité spécifique sur le sujet.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Le temps de ce lundi 5 novembre, sec et doux dans la moitié nord de l'Hexagone, agité et pluvieux au sud. Au meilleur de la journée, il fera entre 14 et 20 degrés du nord au sud. Florian Delorme.
Merci Catherine Dutu, on se retrouve à 7h30.